Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc effectivement, mon intervention est un peu différente parce que ce n'est pas celle d'un praticien de terrain, mais plutôt celle d'un observateur du système de soins, puisque je suis chercheur. Juste, je travaille à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. J'ai beaucoup travaillé sur le domaine des réseaux de soins. Je travaille actuellement sur l'organisation des soins primaires et je suis aussi, et je crois qu'il faut que je le mentionne, chargé de mission à l'Observatoire de la démographie des professions de santé, notamment chargé du suivi des expérimentations de délégation de tâches ou de coopération entre les professions de santé. Vous avez peut-être entendu parler. Alors, je remercie l'IPSEM de m'avoir donné l'occasion de réfléchir et de découvrir, parce que je ne connaissais pas l'éducation thérapeutique en détail. Et puis, je remercie aussi Patrick Lamour qui m'a abondamment alimenté en documentation pertinente. Alors, je vais donc suivre plusieurs points. Il m'a semblé important de replacer en fait l'éducation thérapeutique dans le cadre en fait des maladies chroniques et du rôle du secteur de soins primaires. Je l'appelle volontairement soins primaires et pas soins ambulatoires, et je m'expliquerai là-dessus. Je donnerai quelques exemples étrangers qui s'appuient sur un rapport que je vous conseille de lire, qui est accessible parfaitement facilement sur Google, qui est le rapport de l'IGAS de septembre 2006 sur le disease management, et qui est extrêmement intéressant, je pense, quand on s'intéresse à l'éducation thérapeutique. Et puis, je définirai les rôles que j'identifie en fait pour les professionnels libéraux dans le processus d'éducation thérapeutique tel que je l'ai compris, et je me poserai en fait la question comment qui rémunérer, et puis je proposerai quelques pistes. Je me lancerai. Bon, alors là, les maladies chroniques. Juste un rappel quantitatif pour donner quand même l'importance du poids économique de santé publique, bien entendu, mais aussi économique, et c'est quand même une dimension importante quand on aborde la question de la rémunération. Les 30 affections longue durée donc concernent 13% des assurés et représentent 60% des dépenses assurance maladie, c'est considérable. Alors bien entendu, il y a dans ces 30 affections longue durée des maladies comme l'insuffisance rénale chronique, des maladies comme les cancers, et puis il y a les maladies chroniques, je dirais, plus longues, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Elles sont en augmentation, vous voyez, c'est considérable, 73% en 10 ans. Et le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie estime donc à 10 millions de personnes en ALD en 2010. Alors, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu de santé, et notamment, il y a des maladies qui coûtent très très cher et d'autres qui sont très fréquentes, et c'est le cas notamment du diabète, des maladies cardiovasculaires, d'où leur intérêt et leur importance du point de vue du financeur. Et un des enjeux qui est évoqué dans les affections longue durée, c'est de passer d'un système où on rentrait dans un processus administratif de remboursement à 100%, de prise en charge à 100% avec l'ordonnancier Bizone, à une démarche où on essaye non seulement de rembourser à 100%, mais aussi d'essayer de mieux organiser la prise en charge. Et c'est vraiment l'axe qui est pris et qui est le tournant actuel sur les affections longue durée. La Haute Autorité de Santé est chargée d'élaborer des référentiels, donc François Bourdillon l'a évoqué. Donc qu'est-ce qu'elle veut mettre dedans? Des listes d'actes remboursés, un guide médecin, un guide patient. Et dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé, qui est accessible donc là aussi sur le net, dans le rapport du Haut Conseil à l'assurance maladie, il est clairement évoqué l'éducation thérapeutique comme devant faire partie des activités d'un référentiel de prise en charge d'une maladie chronique. Et il est dit aussi que, dans cette recommandation, que l'éducation thérapeutique doit faire l'objet d'un financement contractuel global. Donc, c'est assez flou, mais on voit bien qu'on n'est pas uniquement dans une approche de paiement à l'acte pour un acteur isolé. Et puis, il est aussi envisagé, car je crois qu'il y a pas mal de maladies qui peuvent faire l'objet d'une éducation thérapeutique qui ne sont pas sous ALD, hein, puisqu'il y a des maladies peut-être même bénignes, ou en tout cas qui ne relèvent pas d'une inclusion dans un processus d'ALD, qui, au contraire, pourraient bénéficier d'une éducation thérapeutique. Et c'est aussi une ouverture dans ce sens. Donc là, c'est quand même juste une illustration pour montrer que le coût global des affections longue durée, c'est quand même principalement un coût hospitalier. Et un des enjeux du développement, en tout cas économique, et beaucoup d'études qui se penchent sur soit l'évaluation des réseaux, soit l'évaluation des interventions qui visent à faire de l'éducation, cherchent à mesurer l'effet de ces actions sur les hospitalisations et donc les coûts évités par les hospitalisations. Donc c'est quand même. Et on voit que c'est. Là, il faudrait investir un peu plus dans les honoraires, dans les soins ambulatoires et les soins des professions paramédicaux pour peut-être diminuer les coûts hospitaliers. Alors, pourquoi le secteur de soins primaires est pertinent pour ces maladies chroniques? C'est que d'abord, un grand nombre de patients sont suivis en ambulatoire, vous le savez. En France, l'offre en soins ambulatoires est très abondante, encore. Quoique inégalement répartie. Juste comme exemple, il y a à peu près 760 endocrinologues libéraux. Je ne sais pas exactement combien de diabétologues libéraux, mais il y en a 760, en tout cas dans les chiffres de l'ONDPS, en 2004 ou 2003. Ça fait, si on divise par 100, 7 par département, et je ne suis pas sûr qu'ils soient exactement... tous bien homogènes, enfin répartis de façon homogène. Donc on voit très vite que ce n'est pas une profession qui va permettre de résoudre le problème. On a aussi une offre de soins ambulatoires caractéristique en France, comme en Allemagne, de médecins généralistes et de médecins spécialistes. Ce qui, je crois, est aussi un avantage, c'est-à-dire que, et qui est considéré comme un enjeu par les systèmes de santé qui se sont organisés uniquement avec une offre de soins généralistes et qui cherchent aujourd'hui à réintroduire de l'offre spécialisée en ambulatoire, en soins primaires. Et puis, elle est quand même majoritairement composée de professionnels, donc sous statut libéral, et non seulement les médecins, mais aussi beaucoup de professions paramédicales, ce qui est aussi une spécificité française. Autre élément important, je crois, avoir en tête dans notre système ambulatoire, c'est la place du médecin traitant aujourd'hui qui a été donc installée par la réforme de 2004 et qui est en fait le généraliste et qui a maintenant une liste de patients inscrits. Donc il a une population, en fait. Il est référent pour une population. Je crois que c'est un changement majeur, en fait, dans l'organisation du système de soins. Et c'est lui, dans les textes, qui réalise le protocole d'ALD. C'est lui qui le signe. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un conflit, puisqu'il y a une dérogation pour 6 mois pour que ce protocole puisse être fait aussi par des spécialistes. Mais normalement, dans les textes, c'est lui qui le réalise avec le médecin conseil. Donc, on a un système de soins qui consacre quand même le rôle du médecin traitant, qui est un généraliste. Alors, quelques exemples étrangers, rapidement, pour vous montrer que ça dessine, alors ça je les retire du rapport que j'ai cité de l'IGAS, mais ça montre comment l'éducation thérapeutique est comprise dans les autres pays, et peut-être ça peut dessiner des évolutions en France. Aux États-Unis, en fait, le disease management, on appelle ça le disease management, et une des caractéristiques, c'est que depuis 10 ans, finalement, on voit émerger des sociétés qui se sont spécialisées en fait dans le suivi des patients, et la logique du disease management aux États-Unis, c'est on appelle les assurés à domicile, on gère tout par téléphone et on a une relation directe avec le patient et on chinte les professionnels et les médecins. Et sur l'argument que les médecins américains n'ont pas le temps, ne sont pas formés, ne savent pas faire l'éducation thérapeutique, donc les assureurs ont une démarche directe vers les patients. Alors ce qui est dit donc de ces modèles, qui sont considérés comme des modèles permettant de faire de l'éducation thérapeutique, hein, pour les Américains, on fait de l'éducation thérapeutique par téléphone. Vous avez donc le modèle assez dominant où on gère le disease management indépendamment du médecin, et quand l'assureur gère directement l'offre de soins, eh bien à ce moment-là les médecins sont beaucoup plus impliqués parce qu'ils sont salariés et ils sont dans les centres multidisciplinaires et donc ils réalisent eux-mêmes le suivi des patients. Donc bien avoir en tête qu'on peut voir émerger aussi dans un contexte comme celui de la France des démarches d'assureurs qui, après tout, pourraient directement, complémentaires ou obligatoires, s'adresser aux patients sans forcément passer par les professionnels. Autre modèle d'éducation thérapeutique, c'est celui, je dirais, du Royaume-Uni, qui s'appuie explicitement sur une offre de soins primaires, et notamment les médecins généralistes, qui ont la caractéristique en Angleterre d'être regroupés majoritairement et qui ont un contrat et des évolutions notamment contractuelles avec le National Health Service, dans lequel ils s'engagent sur des objectifs de qualité de suivi de patients atteints de maladies chroniques. Et ils reçoivent un budget qui peut être conséquent, puisque ça peut être 20% de leur... Ils ont une augmentation de 20% de leur budget collectif. Et avec ça, ils peuvent recruter des infirmières qui peuvent les aider à améliorer le suivi. En Allemagne, l'éducation thérapeutique existe, en fait. Elle existe déjà. Et donc, elle est assurée et financée principalement par les caisses, sous la forme donc de cours à des groupes de patients, donc, et aussi des financements donc, de consultations médicales. Donc, on voit bien que la question de l'implication des professionnels de santé, notamment des médecins, est, à mon avis, posée dans le développement du disease management, et derrière se pose la question de l'éducation thérapeutique. Alors, en France, moi, ce que j'ai compris de l'éducation thérapeutique, c'est que c'est un processus, c'est un projet plus qu'un acte. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le temps. On parle aussi de programmes. Et pour moi, bon, les réseaux, ce n'est ni plus ni moins que des projets d'organisation du système de soins ou des programmes, en fait. Donc, on est quand même un peu dans cette idée-là, qui vise un objectif d'acquisition de compétences par le patient, et qui s'adapte, en fait, qui doit s'adapter, qui nécessite une certaine souplesse et qui semble avoir une certaine formalisation. Alors, ici, on a en tête cette idée-là. Quels sont les acteurs et quel rôle pour les acteurs aujourd'hui ? Bon, on a le médecin traitant en France, qui est quand même, finalement, devient un acteur de première ligne, auquel on donne un rôle, qui a un forfait hein, pour prendre, suivre des patients en ALD, qui va donc signer ce protocole d'ALD, et qui est le médecin généraliste. Mais le problème du médecin généraliste, c'est qu'il n'est pas forcément formé, et il n'est pas forcément intéressé. C'est comme d'ailleurs la coordination dans les réseaux. J'ai beaucoup étudié ça, et en regardant de très près, le médecin coordinateur, mais en fait, ça l'intéresse rarement, la coordination. Organiser une réunion avec 6 ou 7 personnes, ça peut prendre une matinée, et animer une réunion, ça nécessite des compétences qui ne sont pas forcément maîtrisées par un médecin. Il n'a pas forcément envie de le faire. Mais enfin, ils ont dans les réseaux soubis, notamment de prise en charge des personnes âgées, ils ont cette fonction de coordination. Donc, ils ne sont pas forcément intéressés. Et puis, ils exercent majoritairement seuls. On a les médecins spécialistes qui ont une expertise sur une maladie, qui peuvent être dans une position de supervision, d'encadrement, mais qui sont quand même moins nombreux et qui sont inégalement répartis. Il y a enfin les paramédicaux, donc ça a été dit par l'orateur précédent, et qui sont quand même plus intéressés, car ça s'inscrit aussi dans les projets professionnels, notamment la profession infirmière. Et enfin, les associations de patients qui, à mon avis, peuvent jouer aussi un rôle très important. Et je rappellerai quand même un enjeu majeur dans cette affaire, c'est de garantir l'accès à tous les patients concernés sur le territoire avec des ressources inégalement réparties. Donc comment on fait ? Ça, c'est une question. Comment et qui rémunérer ? Alors, un acte isolé comme un CE, c'est-à-dire un C éducatif, alors ne paraît pas envisageable, donc j'endosse la position un peu de François Bourdillon aussi, qui, parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait... on est dans un processus... on est dans un processus d'abord, donc on voit plutôt un forfait, et puis qui doit s'adapter. Hein, et puis on est plusieurs acteurs impliqués, donc il faut quand même se mettre d'accord sur des objectifs et peut-être avoir le même langage vis-à-vis du patient. Sur les réseaux, en tout cas, moi j'ai travaillé sur la périnate, si les différents acteurs impliqués ne disent pas la même chose aux femmes enceintes, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut se mettre d'accord, et ça c'est un enjeu majeur. Et la formation, je pense, joue un rôle fondamental.
On se met d'accord pour finir dans 3 minutes.
D'accord. Donc ensuite, donc un forfait pour un processus de soins. Ça semble être quand même une piste importante. Alors, quand on regarde, est-ce qu'il y a des niveaux de forfait à définir en fonction du niveau de gravité ? Alors, gravité de la maladie ou de gravité, je dirais, ou de la situation du patient, c'est une question, à la rigueur, c'est une question qui vous concerne, vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est tolérable pour les professionnels d'éducation thérapeutique d'imaginer qu'on stratifie ou qu'on définisse des forfaits de niveaux différents ? Quel est le niveau de formalisation tolérable pour des protocoles ? Et moi, je crois que si on définit un forfait avec des niveaux et qu'on a des protocoles un peu types, peut-être qu'à ce moment-là, on peut appliquer ce forfait... à n'importe quelle organisation qui doit s'adapter en fait aux contextes locaux et dans lequel on pourrait aussi bien financer une structure hospitalière que des acteurs libéraux. L'essentiel étant de savoir quelle est la compétence et quel est le service délivré. Donc, quel niveau de qualification exigé ? Je crois que c'est une question centrale. Et pour quel rôle ? Est-ce qu'il y a des éléments à distinguer entre diagnostic éducatif et puis l'intervention plus importante ? Là, il m'a semblé lire des choses sur cette question. Et moi, je crois... Est-ce qu'il ne faut pas dissocier profession et qualification en éducation thérapeutique ? Est-ce qu'il ne faut pas dire, après tout, un acte d'éducation thérapeutique peut être fait par différents professionnels, s'ils sont formés de la même façon pour le faire ? Ça, c'est une question, je pense, à creuser. Et puis après, quelle valeur de l'acte ? Donc, temps passé, niveau d'expertise. Bon, là, c'était juste pour vous montrer que la démographie médicale, avec un numerus clausus à 7000 tel qu'il est, eh bien, ne va pas va décroître. Et je pense que ça va poser des questions d'organisation intéressantes. Alors, quelques pistes très vite. Je crois qu'en France, on peut aller vers... Il y a une piste qui serait le regroupement des professionnels libéraux, parce que les médecins français ne sont pas tellement en groupe. Est-ce qu'on va vers des groupes multidisciplinaires de libéraux ou est-ce qu'on va vers un médecin généraliste entrepreneur, comme au Royaume-Uni, qui salarie d'autres professionnels paramédicaux ? Alors, c'est une tendance naturelle des jeunes, aujourd'hui, des médecins, de vouloir travailler dans un autre contexte en ambulatoire. Et c'est clair que le financement d'un groupe paraît plus adapté à un développement d'une activité d'éducation thérapeutique. Mais c'est quand même actuellement farouchement refusé par les syndicats signataires de la Convention. Deuxièmement, l'organisation par les caisses d'une démarche en est parlé. Et puis troisième piste, pourquoi on ne pourrait pas imaginer des structures extérieures un peu sur le modèle de l'organisation du dépistage du cancer du sein ? qui est actuellement d'ailleurs remis en cause, mais enfin, justement, peut-être qu'on peut les recycler, ou en tout cas réorganiser la prévention et l'éducation, en se disant dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas un cadre départemental? Est-ce qu'il ne faut pas certifier des éducateurs comme on certifie les radiologues qui font des mammographies avec des standards de qualité? Est-ce qu'il ne faut pas faire de la rémunération à la vacation? Et à ce moment-là, on peut associer des structures libérales, des structures associatives, des structures publiques. Et puis, bien sûr, la question de l'articulation avec les médecins traitants est à définir. Voilà, donc en conclusion, il m'a semblé que l'éducation thérapeutique, c'est avant tout un projet professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur la pratique, je crois que c'est central ça, qui implique des pratiques coopératives, qui rencontrent un intérêt financier majeur, mais dont il faut définir l'articulation avec les exigences économiques et certainement réfléchir sur comment sauvegarder un objectif professionnel et de relations de soins. Et je crois, moi, qu'il faut d'abord travailler sur les processus, les rôles et les compétences avant de définir des actes et des valeurs d'actes. Je vous remercie.